Le journal présenté par Liane Guenat, bonjour.
Bonjour. Trier ses déchets n'est pas seulement un bon geste pour l'environnement, cela protège aussi les déchetteries et leurs employés. Après l'incendie du site de Rondsagne à Tavannes cet été, Seltor tient à rappeler que certains déchets sont dangereux quand ils n'atterrissent pas au bon endroit. Des perspectives financières inquiétantes pour le pays. Le Conseil national a lancé ce matin les débats sur le budget 2023 de la Confédération et sur le plan de financement des prochaines années, pas très positif. Un jeune hockeyeur régional en pleine forme pour aider son équipe. Noah Delémont a su gagner la confiance de son coach au HC Bienne grâce à ses bonnes performances. Il tentera de confirmer ce soir face à Davos dans le championnat de National League. Météo, l'après-midi devrait être plus sec que la matinée. Les températures sont de saison avec des maxima comprises entre 5 et 8 degrés et le vent souffle légèrement tant sur le Seeland que dans les vallons. Trier ses déchets, c'est important pour l'environnement, mais pas seulement. Ces gestes simples permettent aussi de réduire les risques d'accidents et d'incendies. L'entreprise Seltor à Tavannes veut sensibiliser les citoyens à ces dangers. Le 26 juillet dernier, le site de Rondsagne a été le théâtre d'un violent incendie, très certainement provoqué par un élément qui n'avait rien à faire dans les ordures ménagères. Un bulletin d'information a été largement diffusé dans les communes concernées. La vice-présidente du conseil d'administration de Seltor, Anne-Marie Kounen.
Il y a eu quand même de temps en temps des débuts d'incendie déjà sur le site de Seltor, mais qui ont toujours été constatés rapidement, ils ont pu être éteints, ça arrivait de temps en temps, mais on s'est toujours dit il y a un problème avec tout ce qui est batterie, tout ce qui est accumulateur, qui ont des composants qui sont inflammables. Alors en soi, comme ça, pour le citoyen, on se dit, voilà, cet appareil ici, il ne pose pas un problème. Alors, on le met à la poubelle et généralement, après, on ne sait pas ce qui se passe avec ces déchets. Et puis, on ne se pose pas plus de questions. Mais il faut savoir une chose, c'est que ces déchets, après, ils sont broyés, ils sont compactés. Et tout à coup, ces accumulateurs ou ces batteries, elles perdent du liquide et ce liquide, il est inflammable. C'est dangereux, ça peut créer des incendies, ça peut créer aussi des explosions. Et ça signifie que en fait, il est extrêmement important que lorsqu'on trie les déchets, première idée qu'on a, c'est qu'on trie pour l'environnement. Mais on ne se pose jamais tellement la question de savoir qu'il n'y a pas simplement l'environnement qui est pris en considération, il y a aussi le fait qu'il y a des dangers.
La multiplication des petites batteries et des accus explique en partie l'augmentation des incidents chez Seltor. L'entreprise rappelle que ces objets peuvent être éliminés directement à la déchetterie pour un traitement spécial. Notez encore qu'à la suite de l'incendie de juillet dernier, la grande halle a déjà été démontée en partie. Elle le sera entièrement. Le bâtiment sera reconstruit l'an prochain, vraisemblablement. Le permis de construire sera déposé prochainement. Une mauvaise nouvelle pour les clubs sportifs qui gravitent autour de la Tissot Arena. CTS a annoncé hier dans un communiqué qu'elle allait mettre à contribution ses utilisateurs pour faire face à l'augmentation des coûts de l'énergie. La société Congrès Tourisme et Sport, qui est en main de la ville de Bienne, exploite diverses infrastructures et se dit gravement touchée financièrement. Elle explique qu'elle ne peut plus couvrir intégralement les surcoûts avec sa réserve qui a déjà diminué à cause de la pandémie de Covid. Elle veut ainsi facturer 1 million supplémentaire aux différents utilisateurs, les précisions d'Emilie Momentaler.
Parmi ces utilisateurs, il y a le HC Bienne, le FC Bienne et 4 clubs de curling. Et pour eux, c'est une annonce difficile à encaisser. Nous devons encore étudier la situation, mais les propositions de CTS ne sont pas acceptables. Nous ne sommes pas professionnels, nous ne pouvons pas doubler nos frais accessoires. C'est ce qu'assène Mendou Vöktli, le président du conseil d'administration et responsable des finances de la halle de curling SA qui gère les installations. On parle d'une augmentation de 70 000 francs pour cette année et de 140 000 pour 2023. Cela représente une hausse de 300 francs sur les cotisations qui se situe actuellement autour de 600 francs pour les curleurs. Je suis inquiet car nous avons déjà perdu beaucoup de membres à cause du Covid. Une telle hausse n'est pas possible, poursuit Mendou Vöktli. Il veut aussi chercher à comprendre pourquoi ESB, Énergie Service Bienne, doit autant augmenter ses prix et sur quel contrat cela se base. Il attend également de la transparence de la ville de Bienne dans ce dossier. Des séances vont prochainement être menées avec CTS et les représentants des clubs de curling actionnaires.
Et du côté du hockey sur glace et du HC Bienne, le manager Daniel Villard nous a confié que le club allait analyser tous les détails avant de prendre officiellement position. Cette annonce est également une mauvaise nouvelle pour le club de football du FC Bienne. Nous y reviendrons dans le journal de 18h. CTS explique dans son communiqué que son objectif est de conclure des accords pour 2023 d'ici la fin de l'année et pour les années 2024 et suivantes jusqu'à février prochain. Une action volontairement provocatrice des enseignants jurassiens. Plus de 80 d'entre eux ont écrit hier au service de l'enseignement pour demander leur mutation à Moutier. Ils pointent du doigt des conditions qui se péjorent dans le Jura, à l'inverse de Berne. Le syndicat des enseignants jurassiens, à l'initiative de cette action, réagit ainsi au plan d'équilibre 22-26 qui empirera, selon lui, la situation côté jurassien. Les fonctionnaires prévôtois bénéficieront, eux, de droits acquis dans le cadre du transfert de Moutier dans le Jura. Principale différence entre les deux cantons, les salaires, comme l'explique le secrétaire général du syndicat des enseignants jurassiens, Rémi Meury.
Si je prends uniquement les enseignants primaires, en 2016, dans le canton du Jura, sur une carrière de 40 ans, un enseignant primaire gagnait environ 211 000 francs de plus que dans le canton de Berne. Et aujourd'hui, ça s'est inversé, c'est 138 000 francs de plus, mais dans le canton de Berne, en l'espace de 5 ans.
On voit quand même que les enseignants jurassiens, les nouveaux enseignants, les jeunes qui rentrent dans ce métier, sont mieux payés dans le Jura que dans le canton de Berne.
Oui, alors effectivement, et c'était valable pendant les 30 premières années en 2016 d'enseignement. Aujourd'hui, ils le sont uniquement pendant 13 ans, et après, pendant les 27 années qui suivent, c'est dans le canton de Berne qu'ils sont le mieux payés.
Rémi Meury répondait à Marceline Michon. Il précise qu'il n'existe pas de risque de mutation réelle des enseignants jurassiens à Moutier. Et contacté, le chef du service jurassien de l'enseignement, Fred-Henri Schneck, ne souhaite pas réagir pour le moment. Pincé à Recours avec plus de 2 tonnes de viande provenant d'Espagne. Un ressortissant portugais de 37 ans a été interpellé le mois dernier lors d'un contrôle mobile des douaniers en zone frontière dans le village Ajulo. La marchandise importée illégalement a été séquestrée. Les précisions de Raphaël Chalvera.
Les faits se sont déroulés le 23 septembre vers 4h30 du matin à Recours. Les douaniers ont intercepté un véhicule qui tractait une remorque frigorifique, tous deux immatriculés en Suisse. Ils ont alors découvert 2,3 tonnes de travers de porc congelés dans 170 cartons, de la viande provenant d'Espagne selon l'étiquetage. Le conducteur est détenteur d'un permis de conduire suisse et domicilié en France. Il a déclaré être le propriétaire d'une entreprise basée dans le canton du Jura. Ce ressortissant portugais n'a apparemment pas convaincu. Il a été dénoncé aux autorités puisqu'il ne possède pas d'autorisation de travailler en Suisse. L'enquête a par ailleurs établi que l'homme avait déjà importé de la viande illégalement au moins une fois. Les redevances dues se montent à 10 000 francs. Une amende conséquente sera prononcée pour infraction à la loi sur les douanes et à la loi sur la TVA. Quant à la marchandise qui aurait dû être acheminée à divers destinataires en Suisse, elle a été séquestrée par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité aux frontières. La viande a été déclarée consommable par le service cantonal compétent sous réserve de la levée du séquestre.
Le Conseil national consacre l'essentiel de son temps durant cette première semaine de session d'hiver à l'examen du budget 2023 de la Confédération. Davantage que les chiffres pour l'année prochaine, ce sont les perspectives pour les années suivantes qui inquiètent. Les explications de notre correspondant parlementaire Serge Jubin.
Trois grands chapitres dans ce débat fleuve. Il faut d'abord voter des crédits supplémentaires pour 5,6 milliards, dont 1 milliard pour l'accueil des réfugiés ukrainiens. 70 000 jusqu'ici, la Confédération en attend 35 000 de plus cet hiver. L'autre gros morceau, ce sont les 4 milliards débloqués pour assurer les liquidités de l'entreprise électrique Axpo. Rien n'a encore été utilisé. Deuxième chapitre de ce débat financier, le budget 2023 de la Confédération proprement dit, le dernier d'Oualim Maurer, il le juge encore équilibré, avec un excédent de dépenses de 4,8 milliards, mais avec 5,7 milliards de dépenses extraordinaires. Le budget respecte le sacro-saint frein à l'endettement. Le Parlement dispose même d'une petite marge de manœuvre qu'une majorité de la Commission des finances du Conseil national entend utiliser. 4 millions supplémentaires pour mieux protéger les troupeaux des attaques du loup ou encore 6,2 millions de francs pour faire la promotion des vins suisses. Une priorité, le Conseil national vert fribourgeois Gérard André.
Oui, c'est une motion qui a passé la rampe au national. La Commission des finances assume et puis a décidé de soutenir. Mais on peut toujours questionner la priorité pour quoi que ce soit comme dépense.
Ce qui préoccupe surtout le Parlement, et c'est le troisième chapitre du dossier, ce sont les perspectives pour 2024, 25 et 26, avec de gros déficits prévus de 1,5 à 5 milliards, violant le frein à l'endettement, en cause des dépenses supplémentaires votées par le Parlement, pour l'armée, pour augmenter les subventions aux primes maladies, pour le climat et l'énergie ou encore pour l'asile. Le successeur d'Oueli Maurer aux finances devra se montrer inventif pour redonner aux finances fédérales leur légendaire équilibre.
La loi Covid-19 sera prolongée jusqu'en juin 2024. Plusieurs dispositions ont fait leur preuve dans la lutte contre le coronavirus. Le Conseil des États a approuvé ce matin le projet, mais diverge encore sur la prise en charge des tests. Contrairement aux députés du National, les sénateurs ne veulent plus puiser dans la caisse fédérale. Ils estiment que les coûts devront être pris en charge par les personnes qui se font tester dès le 1er janvier, sauf si l'état de situation particulière est réactif. Le Conseil national devra donc revenir sur le dossier. C'est le plus gros volcan actif au monde et il est en éruption. Pour la première fois depuis 40 ans, le Mauna Loa, situé à Hawaï, crache de la lave et une épaisse fumée depuis dimanche soir. Spectaculaire, sa fureur ne menace pas les habitations pour l'instant, mais les autorités et les experts appellent à la prudence.
Il est midi 26, l'heure du sport.
Sport. Le HC Bienne devra vite sortir du bus après un long déplacement dans les Grisons. Les hockeyeurs zélandais affrontent Davos à 19h45. Ils tenteront de signer une troisième victoire de rang en National League. Ils pourront compter sur l'énergie de Noah Delémon pour y parvenir. Le défenseur de 20 ans, formé au club, confirme ses bonnes dispositions lors de ce début de saison qu'il a pourtant commencé en étant surnuméraire. Mais au fil des matchs, il a gagné la confiance d'Antti Turmenen et s'est fait une place au sein de l'alignement de l'entraîneur finlandais du HCB, Noah Delémon.
Le tout début de saison, il était peut-être un peu frustrant. Je pense que j'arrivais pas à développer mon jeu comme je le voulais. Et puis je pense que là, depuis une dizaine de matchs, je pense que petit à petit ça vient. On voit aussi la progression qui a été faite durant cette dernière année. Sur le plan défensif, sur le jeu sans puck, sur le jeu avec puck, je pense qu'on voit que mon jeu est en train de devenir à maturité. Alors je pense que c'est très satisfaisant de voir que les efforts payent.
On a vu en début de saison, justement, vous le disiez, une ou deux fois surnuméraire. Comment est-ce que vous avez vécu ça, vous, en tant que joueur?
Moi, je pense que c'est assez compliqué à le vivre. Je pense que c'est sûr que je m'attendais à commencer la saison. Et puis finalement, je me suis retrouvé dans les tribunes, mais je pense que ça a fait du bien. Je pense qu'il fallait le prendre du côté positif. Je pense que c'était un petit challenge que je voulais relever. Je voulais montrer que ma place n'était pas dans les tribunes, puis que c'était sur la glace. Puis je pense que dernièrement, justement, j'arrive bien à faire ça. Et puis c'est satisfaisant de voir que ces efforts sont récompensés par plusieurs titularisations de suite.
Et qu'est-ce qu'il va falloir faire maintenant pour encore bousculer la hiérarchie et faire partie encore des tout meilleurs?
C'est un travail à long terme. Je pense que ça ne va pas se passer en une ou deux semaines. Je pense qu'il y a une hiérarchie, c'est comme ça. Et puis il faut l'accepter. C'est dans tous les clubs comme ça. Ce qui est important, c'est d'accepter son rôle. Puis je pense que ça, on est tous conscients dans le vestiaire, le rôle qu'on a. Et puis sinon, il faut continuer à travailler et puis montrer que tu peux avoir plus de responsabilités.
Noah Delémon répondait au micro de Loïc Georgie. Davos HC Bienne, c'est un match à vivre en direct sur RJB et dès 19h30. Le patron de Ferrari, Mattia Binotto, a présenté sa démission. C'est ce qu'annonce ce matin l'écurie italienne de Formule 1. L'Italien de 53 ans, en poste depuis la saison 2019, paye son échec à reconquérir le titre mondial malgré une voiture en nette amélioration cette année. Le nom de son successeur n'a pas encore été dévoilé. L'information revient à 13h. Bel après-midi.